Bourbon.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 15e podcast. Donc aujourd'hui, on commence pas avec une étude parce que c'est un gros sujet là, qu'on a en vue. C'est un sujet qu'on aime beaucoup, qui nous touche parce que c'est ça notre discipline, c'est ça qu'on aime le plus faire. C'est notre, j'allais dire notre profession, mais notre spécialité là si on veut. On va vous jaser un petit peu du squat. Donc à la base, ce podcast-là, c'était vraiment, parce que dans le fond, on a sorti l'image la semaine passée, puis là, c'était vraiment censé être le squat de A à Z pour les débutants, avancés, peu importe. Puis là, finalement, tantôt, on s'est rendu compte qu'il y avait juste beaucoup trop de choses à dire par rapport à ça. Puis vu qu'on se donne l'objectif à chaque fois de faire un podcast en 30 minutes, puis qu'on l'a, comme je pense, jamais eu encore, ou peut-être une fois, ouais, là. Une fois. On s'est dit que ce serait mieux de séparer le podcast en 3 parties. Donc aujourd'hui, on va vraiment juste regarder le setup. Donc du moment que t'approches ta barre jusqu'à ce que tu t'apprêtes à commencer le mouvement. Deuxième partie, ça va être le mouvement en tant que tel, donc la partie dynamique, la descente, la montée. Puis la troisième partie, ça va être tout ce qui est erreur technique, sticking point, mon dieu, point.
Sticking point qui veut dire, dans le fond, où est-ce que tu rates un peu ton lever ou ouais, la barre ralentie.
Ouais, c'est ça, la barre ralentie ou que c'est la portion la plus difficile pour toi. Souvent, c'est cette portion-là que tu vas échouer, par exemple, etc. Donc, c'est ça, la troisième partie, ça va être sur les sticking points puis les faiblesses aussi qu'on peut rencontrer là, lors du mouvement du squat. Mais aujourd'hui, on s'en tient vraiment, vraiment juste au setup. T'as-tu quelque chose à dire?
Ouais. Pour ceux qui se demandent pourquoi qu'on n'est pas encore dans notre local au Cité en forme, c'est parce que finalement, on était encore une fois à dernière minute, dimanche soir, on était supposé de retourner, mais là, on a regardé l'heure, on a dit, on est peut-être mieux de rester ici.
On est tout le temps occupé donc... dimanche, fait que là, on était déjà en train de travailler super intense, blablabla. Ah là, faudrait faire le podcast, puis finalement, on a décidé de le faire ici, c'était mieux comme ça, côté rentabilité.
Donc, on est encore dans notre chez soi.
Ok, je pensais que t'allais dire, on a encore le local, loin. Après 2 semaines, oui, on a encore le local idéalement, là, mais bon. Ok, fait que dans le fond, on part ça, là, c'est ça, il n'y a pas d'études aujourd'hui parce qu'on veut garder ça court, simple, puis on veut juste qu'on parle de nous, je sais pas trop. En tout cas, fait que, positionnement,
ben, dans le fond, la portion aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser de la portion jusqu'à temps qu'on approche la barre, jusqu'à finalement, ben, on déraque la barre.
Ouais.
Donc, justement, le...
Ouais, ben dans le fond, comment, qu'est-ce que tu viens de dire?
Comment qu'on approche la barre?
C'est super important, c'est comment on approche la barre. Ça, c'est comme tellement négligé, pour vrai, là. Mais tu sais, on n'a même pas encore touché à la barre que ton setup commence. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le réalisent. Tu sais, c'est sûr que je m'attends pas à ce que tout le monde dans le gym soit comme super intense, concentré, craqué. Tu sais, on le sait, là, qu'il y en a qui vont là pour le social, puis pour jaser, puis peu importe. Mais là, si vous écoutez le podcast, j'ose croire que vous avez quand même un goût de performance en vous, parce que je pense que c'est ça qu'on reflète puis tout ça. Fait que c'est des petits détails comme ça, comme juste la façon dont tu vas approcher la barre qui peut vraiment faire une bonne différence. Donc quand je dis approcher la barre, là, ça part vraiment du moment où que tu commences à te concentrer sur ton lever. Fait que dans le fond, souvent on va voir les gens, ils vont commencer à... Ils vont s'approcher de la barre, puis tu sais, ils vont être pas trop concentrés, ils vont rire, jaser, peu importe, ils vont se placer, ils vont déraquer un peu n'importe comment. Puis ça reflète le fait qu'ils étaient pas concentrés avant même de faire leur premier mouvement.
C'est correct, tu sais, on a tout le temps dit qu'on allait faire un podcast justement sur le niveau d'activation optimal, mais brièvement, c'est correct de pas tout le temps sniffer de l'ammoniaque avant ton lever, puis de mettre ta musique de mort dans les oreilles.
C'est des grosses tapes dans le dos.
Des tapes dans le dos. C'est correct de pas tout le temps faire ça.
Puis même que, à la limite, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, puis même pas en situation de compétition.
Exact.
T'sais, tout le monde, vous avez votre propre zone de fonctionnement optimale, donc c'est ni trop smooth, si on veut, trop calme,
relax.
Trop relax, ni trop crinqué, puis tu sais, vraiment intense... Il y a vraiment une zone entre les deux qui va vous permettre de performer à votre meilleur, en fait.
Puis c'est individuel à chaque personne, mais juste au moins d'être à son affaire, puis d'être prêt à faire un lever, puis pas comme niaiser non-stop.
C'est ça, tu sais, c'est d'être concentré, puis à la limite, tu peux même visualiser. Puis tu sais, c'est pas nécessairement de visualiser avant chaque lever, parce que on le sait, la visualisation peut faire une grosse différence au niveau des performances. Mais là, en même temps, tu sais, il faut pas virer fou avec ça. Mais tu sais, c'est juste le fait de penser à la charge qui s'en vient, puis ou de penser aux points techniques que tu veux améliorer, de juste pas comme texter sur ton cell ou rire à chaudes larmes avant même de commencer. Puis c'est ça. Puis tu sais, même si vous avez juste la barre à lever, même si c'est 40% de votre max, même si c'est 20% de votre max, le principe reste le même. Parce que comme on disait là, tantôt on en jasait, tu sais, si il y a juste tes 2-3 dernières reps de ton workout, que tu te concentres sur ta technique, puis que tu te mindes, puis que tu t'écoutes de la musique ou peu importe, si c'est juste ces 2-3 dernières reps là qui sont importantes pour toi, ben c'est plate, mais t'as perdu un peu du travail si on veut, parce que les 20 autres reps que t'as faites avant dans ton échauffement, elles aussi est importante, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que t'approches toutes les barres que tu lèves comme si c'était un ORM de compétition. Là, je parle pas encore là de se mettre super intense, mais dans le sens, dans le mouvement technique que tu veux faire, ça reste le même. Tu sais, moi, quand je fais mon échauffement, j'approche la barre, que j'aille la barre, que j'aille, tu sais, je sais pas moi, une plate, peu importe, je vais la lever solide, je vais me déplacer comme je me déplace d'habitude, je vais tout faire mon setup de compétition, parce qu'avec la pratique, ça devient juste comme un patron moteur qui va être acquis de plus en plus. Fait que si tu pratiques tes échauffements d'une façon différente de tes levées de compétition, mais là ça fait en sorte que tu perds un peu de travail au niveau des patrons moteurs que tu pourrais acquérir.
Parce que disons que ton entraînement de prévu aujourd'hui, c'est 3 séries de une répétition à, mettons, une charge pesante, mais tu fais juste te concentrer sur tes 3 répétitions là, comme tu l'as dit tantôt, si dans ton échauffement t'as fait 20 répétitions d'échauffement, ben oui, sont peut-être pas aussi pesantes tes répétitions d'échauffement, mais 20 plus 3, ça fait 23 répétitions totales. Mmh. Tandis que si au final, t'en as 20 pas belles, puis juste 3 qui sont belles, ben ça te fait 3 belles répétitions. Donc au final, tu sais, il y a plusieurs études qui démontrent que plus que tu fais de volume, plus que tu risques d'avoir des bons résultats, des bons gains. Mmh. Donc
la fréquence, dans le fond, est super importante pour apprendre un mouvement, là, puis le garder pour acquis, exact. Si on veut. Là.
Donc, faire 23 répétitions de qualité, ça va augmenter ta coordination, ta technique, ta toute
qu'est-ce qui confiance.
Ta confiance.
Ouais.
Puis, tu sais, ça va te pratiquer aussi, tout le temps aussi à faire tout le temps la même préparation, puis d'être constant dans tes levées. Puis même, on en a jasé aussi tantôt, la vie, tu sais, oui, même si t'as la barre, là, c'est important de se concentrer puis de faire le bon mouvement puis de, tu sais, d'être dedans, parce que ça va t'aider au final, même si c'est pas lourd. Puis c'est ça qu'on jasait tantôt là, la visualisation, même la visualisation, c'est important, puis ça a été prouvé que ça l'aidait à développer un meilleur patron moteur.
Ouais, fait que c'est ça, good. Fait que dans le fond, juste retenir, tu sais, approcher la barre, pas nécessairement d'être agressif, mais tu sais, avec une espèce de confiance, si on veut, puis pratiquer votre setup tout le temps de la même façon, ben là, c'est sûr que si vous êtes pas à l'aise, vous pouvez le changer, mais tu sais, idéalement, plus que tu pratiques ton positionnement de compétition, meilleur tu vas être en confiance lors de la compétition même. Donc, c'est le premier point. Donc, on n'a même pas encore touché à la barre, on s'y approche.
Puis, juste à revenir, là, pour moi, là, une des choses qui fait vraiment une grosse différence, c'est quelqu'un qui va être capable de se concentrer à toutes ses reps. Genre, on en a parlé tantôt, là.
Mais tu sais, pour vrai, genre, des fois, il y en a qui vont dire, ah ouais, je m'entraîne fort pis tout, mais comme...
Il s'entraîne
un
fort.
Un workout sera jamais vraiment optimal si tu jases dans tes séries. Là, je te dis pas, genre, de te clouer la bouche, là, genre, si tu peux parler, mais tu sais, la plupart du temps, entre tes pauses, entre tes répétitions, je veux dire, donc durant tes pauses, tu devrais être en train de te concentrer, là. Tu sais, surtout si tu veux performer. Comme je le disais tantôt, je m'attends pas à ce que tout le monde dans le gym soit comme ça. Genre, ça arrivera jamais. Mais si tu veux performer, ça fait une différence.
Pour moi, ce qui fait la plus grande différence entre... Mettons, si t'as deux personnes, là, pareilles, là, qui ont le même programme, là, la personne qui va se concentrer sur toutes ces séries d'échauffement,
ouais,
jusqu'à...
Vraiment.
C'est ça qui va faire une des plus grandes différences, je pense.
Yes.
Deuxième point, là, on est concentré, on est dedans, on approche la barre, on place nos mains en premier. Parce que souvent, ça, c'est une erreur qu'on va voir, surtout chez les débutants. Ils vont placer leur tête, puis là, après ça, ils vont placer leurs mains, mais là, ils vont être tout le temps un peu tout croche si tu fais cette façon-là.
Non, en fait, ils regardent même pas où ils mettent leurs mains, fait qu'aussitôt qu'ils déraquent la barre, souvent, ça va être débalancé, il va avoir un petit peu plus de poids d'un côté ou de l'autre.
Quand tu places tes mains en premier, puis après ça, t'insères ta tête en dessous de la barre, ben là, tu vas être sûr qu'au moins ta tête est centrée, ou normalement, elle devrait être centrée.
Idéalement.
Après ça, la largeur des mains, quelle largeur tu prends? Est-ce que tu prends super large? Est-ce que tu essayes de coller le plus possible? Généralement, ce qu'on dit, c'est que
de se prendre, place-toi les mains le plus rapprochées que t'es capable pour te sentir à l'aise. Parce que généralement, là, pour la plupart des gens, plus tes mains sont rapprochées, plus ça va être facile d'être solide au niveau du dos. Ça veut pas dire que si tes mains sont larges, tu seras pas solide, c'est juste plus difficile à accomplir. Par contre, ça vient quand même avec certains inconvénients parce que plus t'es proche, plus tu risques d'avoir des douleurs, si on veut, soit au poignet, au coude, aux épaules. Donc, toutes les articulations du haut du corps sont dans un stress un petit peu plus grand. Donc, une personne qui manquerait de mobilité, une ou l'autre de ces articulations-là risque d'avoir des douleurs. Donc, quelqu'un qui est comme, qui manque pas de mobilité aura pas nécessairement de douleurs. C'est juste que si tu te places les mains rapprochées puis que t'as de la douleur, soit tu peux aller travailler sur ta mobilité ou tout simplement essayer d'élargir un petit peu tes mains. Peut-être que tu vas te sentir pas mal mieux, pas mal plus efficace, pas mal plus confiant, solide, etc. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle, puis c'est vraiment à essayer.
La douleur va être beaucoup en lien avec ta position de la barre, qu'on va en reparler dans pas longtemps. Fait que si t'es low bar, on va expliquer c'est quoi tantôt, généralement, tu risques d'avoir plus de douleur. Ben, pas plus de douleur, mais ça va être un petit peu
plus difficile au niveau des articulations. Ça va être un petit peu plus dur.
Parce que souvent, le monde, ils vont dire, « Ah, quand je fais mon bench, j'ai vraiment mal aux épaules, c'est ainsi. » Mais une chose que souvent, moi, je pense à regarder, c'est que, ok, mais quand tu squats, c'est quoi ta fréquence de squat? Est-ce que t'as beaucoup de volume de squat, c'est ainsi?
Est-ce que t'as mal au squat?
Est-ce que t'as mal? Est-ce que t'es inconfortable? Puis si une de ces réponses-là, c'est oui, mais ta douleur que t'as au bench, à tes épaules ou à tes coudes, souvent, ça va pas nécessairement venir de ton bench, mais ça va peut-être venir de ton squat.
Ouais.
Puis juste un petit dernier point, là, au niveau des, rapidement, les mains, souvent, il y en a qui vont placer leurs pouces à l'intérieur de la barre puis ils vont fermer leurs mains.
Ben, attends, je veux juste, avant qu'on parle de ça, tu sais, je veux juste finir pour dire que, comme, tu sais, si vous êtes large, c'est correct aussi, là.
Ouais.
Tu sais, l'idéal, c'est de trouver une position où vous êtes confortable puis de se sentir solide au niveau du dos. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être super larges puis qui vont être corrects à squatter comme ça puis c'est bien correct.
Juste rapidement, là, c'est plus ou moins important, là, mais dans le livre de Boris Shchenko, ceux qui connaissent pas Boris Shchenko, c'est un entraîneur de powerlifting russe, lui dit que normalement c'est recommandé entre 7 et 12 cm ta main par rapport à ton épaule. Fait que tu prends ton épaule, tu calcules 7 à 12 cm, ta main elle devrait être placée à peu près là au niveau de, ben, c'est sur la barre. Prenez-en, laissez-en, parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est individuel, ça dépend de ta mobilité, ton confort, etc.
C'est ça, c'est pour la majorité des personnes.
Ouais.
Mais comme on le disait tantôt, entre nous, là, la majorité, c'est pas tout le monde.
Exact. Puis pour revenir à la main sur la barre, est-ce qu'on ferme la main, est-ce qu'on met le pouce à l'intérieur, à l'extérieur, comme...
Ben, il y a deux types de prises, dans le fond. Fait que souvent, la tendance naturelle, quand on va aller agripper une barre, c'est de vraiment venir mettre les doigts, dans le fond, les quatre doigts au-dessus de la barre, puis le pouce en dessous de la barre. Donc, c'est avec cette prise-là qu'on a une meilleure force de préhension, puis qu'on se sent un petit peu plus solide. Par contre, ça met souvent le poignet particulièrement en low bar, là, on va en parler tantôt, mais ça va mettre plus de stress au niveau du poignet. Fait que quelqu'un qui a mal au poignet durant son squat, puis tu sais, souvent ces personnes-là vont avoir le poignet qui casse, là, évidemment, là, ils peuvent essayer de, au lieu de mettre leur pouce en dessous de la barre, de venir le mettre par-dessus, donc à côté des quatre autres doigts. Ça va diminuer le stress au niveau du poignet. Personnellement, je trouve que c'est une grip qui est un petit peu moins... je me sens moins solide quand je la fais. Personnellement, j'ai pas de problème au niveau du poignet, fait que je peux faire la grip ordinaire. Je préfère ça. Mais toi, je sais que tu fais les deux.
Je fais les deux. Quand je m'étais cassé le poignet, pour moi, c'était juste... J'étais incapable de me placer le pouce en dessous de la barre. Fait que j'avais mes cinq doigts, un à côté de l'autre, par-dessus la barre. Ça me permettait de squatter, puis j'étais super confortable. Au début, c'est vrai que j'étais vraiment instable, mais au fil des entraînements, je voyais plus vraiment la différence. Puis c'est normal, il y a pas de façon meilleure que l'autre.
Non, prenez celle que vous êtes le plus à l'aise. Exactement, c'est à essayer. Donc, pour les mains, je crois que ça va. On va passer à la positionnement de la barre, dans le fond.
Exact. Donc, positionnement de la barre. Vos mains sont placées, vous insérez votre cou en avant de la barre. Est-ce qu'on dépose la barre sur les trapèzes, un petit peu plus bas que des trapèzes? C'est où qu'on la place?
C'est la différence entre les deux mouvements, dans le fond.
Exact.
Donc, le high bar, c'est vraiment quand tu vas venir positionner ta barre au niveau de tes trapèzes. Puis là, avant, je vais te laisser continuer après pour que tu jases toi aussi, là. Mais je voulais juste faire ma parenthèse. Souvent, les gens qui vont débuter à faire du squat, c'est pas rare de les voir squatter, puis là, ils vont se plaindre de douleur là, au cou, là, ah, j'ai mal au cou, puis là, ils vont aller chercher ce qu'on appelle le pussy pad, ok? C'est méchant comme nom, mais dans le fond, c'est le petit coussin noir qu'on met sur la barre, qu'on enroule autour de la barre pour faire le squat. Bon, est-ce qu'on est pour, on est contre? Moi, je suis pas contre, ok? Sauf que c'est sûr et certain que mes athlètes vont pas faire de squat avec ça. C'est pas compliqué, ça prend une période d'adaptation. C'est normal que si tu commences à faire du squat, ça va pas être agréable au niveau de ton dos, mais c'est vraiment pas long que tu sens plus rien. Mon max au squat, c'est 320 livres, puis avec 320 livres sur mon dos, je sens même pas la barre. T'sais, je sens que c'est lourd, là, mais ça me fait pas mal. Fait que t'sais, c'est vraiment question de s'adapter. Puis aussi, deuxième chose, ces gens-là, souvent, qui se plaignent de douleur là, au niveau du cou, peu importe, avec la barre, c'est qu'ils vont venir mettre leur barre au niveau de leur C7, donc la vertèbre, la septième vertèbre cervicale. Donc, si vous partez de votre crâne, vous descendez doucement vers votre cou, à un moment donné, vous allez sentir une grosse bosse. Fait qu'idéalement, mettez pas la barre sur cette grosse bosse-là parce que c'est un os. Puis là, c'est vrai que ça peut faire mal. Donc, on va aller la mettre un petit peu en dessous, vraiment là, sur le gros du muscle. Fait que ça, c'est le high bar qui va, où la barre va reposer plus sur les trapèzes.
Pour le low bar, donc, c'est la barre, comme ça le dit, le low bar, va être placée un petit peu plus basse. Ça va être placé au niveau du deltoïde postérieur. Là, on est en podcast, là, c'est dur de le montrer puis de faire une image visuelle. Allez sur YouTube, marquez low bar squat, high bar squat. Ouais. Il y a des milliers de vidéos sur... Même qu'on va faire un post cette semaine là-dessus. Ouais. Donc,
dans le fond, la barre, elle se rapproche plus de ton omoplate, là, tu sais, au lieu de...
Exact. Elle est un petit peu plus basse.
Ouais.
Ce que ça va te permettre de faire, vu qu'elle est un petit peu plus basse, la barre est plus proche de ton bassin. Donc, ça va diminuer, dans le fond, souvent quand le monde va être high bar puis ils vont avoir une charge vraiment low, leur haut de dos va avoir tendance à arrondir. Donc, ça va être un petit peu plus facile pour le dos de maintenir une belle position droite.
Mm-hmm.
Puis, ça va permettre de faire un squat un petit peu plus penché.
Vers l'avant, parce que dans le fond, le but tout le temps, quand on fait du squat, c'est idéalement de garder la barre aligné avec le milieu du pied, donc vraiment le centre de pression. Fait que dans le fond, si ta barre est plus basse dans ton dos, il va falloir que tu penches un petit peu, incline un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir garder là, cet alignement-là.
C'est ça. Tu sais, il y a très peu de choses qui sont obligatoires là, dans le squat. Tu sais, les pieds peuvent être d'une certaine largeur, les mains peuvent être d'une certaine largeur, mais une chose qu'on devrait retrouver dans tous les squats, c'est que la barre, quand on descend puis quand on monte, elle reste alignée tout le temps avec le milieu du pied.
Ouais.
Mais ça va être dans notre prochain podcast. Là.
Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que brièvement, là, comme il était parti sur ça, là, le low bar, c'est ça, la barre est plus basse dans le dos. Fait que ça change un petit peu. Là, c'est vraiment de la biomécanique, puis on rentrera vraiment pas profondément là-dedans. Mais ça va changer les leviers, si on veut, qui vont agir aux différentes articulations. Puis en fait, la position low bar va augmenter le levier à la hanche, puis ce levier-là, généralement avec ce levier-là, la plupart des gens vont être plus forts comme ça.
La grande majorité du monde vont être capables de lever peut-être 5 à 10 % ouais, de plus.
Oui, exactement.
Donc, maintenant, on a choisi la position de la barre, high bar ou low bar. Si on veut, dans l'optique, éventuellement, de faire une compétition en powerlifting, en tout cas, généralement, on va essayer au moins le low bar, voir comment qu'on le sent. Puis sinon, là, notre barre est placée, il nous reste à...
Ben, est-ce que tu voulais qu'on parle, mettons, pourquoi je prendrais high bar, pourquoi je prendrais low bar ou non?
Non.
Non, pas vraiment.
Ça va être long.
Ben, tu sais, mettons, juste vite, là. Tu sais, c'est sûr qu'un athlète, généralement, les athlètes vont faire plus du high bar, pour avoir un meilleur, voyons, c'est quoi le mot?
Ben, il va avoir
transfert au niveau de leur sport, en fait, au niveau du saut vertical, etc. Les gens qui font de l'haltéro, par exemple, vont être mieux avec le front squat pour mimiquer, si on veut, le clean, puis ils vont faire du high bar pour aller plus ressembler au snatch, par exemple. Mais en powerlifting, étant donné que nous, notre but, c'est de lever le plus haut possible, généralement, la plupart des gens vont vraiment aller chercher plus de poids avec le low bar.
Juste vite, là, très vite. Un des avantages d'utiliser le high bar ou le front squat, c'est justement qu'on utilise moins de charge. Puis ça permet de travailler les quads puis les fessiers de façon quasiment aussi efficacement que notre squat de compétition low bar. Puis ça permet, vu qu'on a moins de charge, souvent on est capable de tolérer un petit peu plus de volume. Puis on le sait que plus que t'es capable de tolérer de volume d'entraînement, plus que tu risques d'avoir des bons résultats, des bons gains.
Mais tu sais, aussi, ça peut faire changement, là. Tu sais, comme toi qui squattais tellement large, tu sais, pis quand même, tu étais low bar très large, de passer au front squat, où tu vas venir rapprocher ta largeur de jambe, ça va faire une bonne différence, là. Ben, pas une bonne différence, mais tu sais, ça peut venir te donner un stimulus super intéressant, là.
Ça permet aussi de travailler certaines faiblesses. Le front squat, par exemple, va venir activer beaucoup plus le core, donc les abdominaux. Le haut du dos, ouais. Les abdominaux. Ça, pour moi, par exemple, quand je faisais mon squat, c'était vraiment une faiblesse.
Ouais, ouais.
Puis, le fait de faire du front squat, je mettais vraiment pas lourd. Ça me permettait de travailler mon corps, mon haut du dos.
Parce que t'es aussi faible du haut du dos.
Puis, je suis aussi faible du haut du dos.
Mais
puis...
t'es pas comme... Genre, esthétiquement, mettons, Brian, il a un très bon dos, mais comme en powerlifting, ton haut du dos, on pourrait le qualifier de faible, mettons. Ça te dérange-tu si je dis ça?
Ça me dérange pas, je vais m'en remettre.
Okay.
Puis c'est ça, j'utilisais tellement une charge, tu sais, mon front squat, il était à 50% de mon back squat. Donc, j'utilisais tellement une petite charge que ça me permettait quand même d'avoir beaucoup, beaucoup de volume, puis je récupérais bien de ça, puis ouais. Ça l'aidait justement à propulser mon squat de compétition.
Ouais.
D'autres choses? Je pense qu'on est rendu à sortir le...
Ouais, on sort de ça.
C'est ça, on sort de ça. Donc, on est rendu à décrocher la barre, puis faire des pas vers l'arrière pour ouais. Squatter. La première chose avant de décrocher la barre, c'est de prendre une, tu sais, de bracer. Je sais pas comment tu vas expliquer ça, ça va être compliqué ça.
Il me laisse la maudite tâche. Non, mais tu sais, sérieusement, avant même de déraquer la barre, vous devez être solide. Parce que c'est vraiment plus difficile solidifier tout ton corps un coup que t'as 100, 200, 400, 500, 600 livres sur ton dos versus quand t'as rien du tout. Donc, avant même de décrocher la barre, vous devez être solide de partout. Puis une des choses qui va vraiment vous aider avec ça, c'est la respiration. Bon, pas tant la respiration, là. Ça va être un mélange de bracing. Donc, allez chercher sur Google, parce que je suis même pas capable de le traduire. Ça va être un mélange de bracing, puis de la méthode de Valsalva. Fait que dans le fond, là, brièvement, là, c'est qu'avant même de décrocher la barre, vous allez venir prendre une inspiration. Faut sentir qu'on envoie l'air au niveau du ventre. Donc, c'est pas une inspiration avec le thorax. Le but, c'est pas de faire lever le chest. C'est vraiment d'envoyer toute la pression au niveau du ventre. Puis, au lieu d'expirer votre air, vous allez la maintenir, dans le fond.
Maintenez
tout au long du mouvement. Là, dans ce cas-ci, ça va être juste de déraquer la barre.
Exact. Fait que, une fois que votre ventre est rempli d'air, en quelque sorte, là, c'est là que vous contractez vos abdos comme si quelqu'un s'arrivait puis il voulait vous donner un coup de poing dans le ventre.
Exactement.
Fait, le fait de...
C'est comme un mélange. Dans le fond, le fait de combiner la respiration au niveau du ventre plus la contraction des abdominaux, ça va vraiment venir augmenter la pression intra-abdominale. Donc, ça va tout venir solidifier, si on veut, votre colonne vertébrale beaucoup plus rigide. Dans le fond, une colonne vertébrale plus rigide diminue le risque de blessure, mais ça permet aussi un meilleur transfert de force, donc il y a que des avantages à utiliser ça.
Pour ceux qui parlent l'anglais puis qui ont une certaine base en anatomie, parce que ces podcasts sont quand même compliqués, vous pouvez aller voir la podcast Squat University le 6 janvier dernier. Il a justement fait une podcast en entier juste sur le bracing,
ouais.
Comme ça. Donc, remplis le ventre d'air. Contracte tes abdos comme si tu t'en allais te faire donner un coup de poing dans le ventre. T'es solide. Là, tu unrack la barre. Quand on recule, on a déjà fait une vidéo là-dessus.
Ouais.
On fait 1, 2, peut-être 3 pas vers l'arrière, puis c'est des petits pas. Plus que tu fais de pas, plus que tu perds l'énergie.
Donc, 4 pas, idéalement, tu veux pas te rendre là.
Exact. Ça commence à être trop. Puis même... C'est ça, non, j'ai rien d'autre à dire.
Ben, tu sais, c'est parce que dans le fond, c'est ça, on veut limiter les pertes d'énergie inutiles, pis t'as pas besoin de faire 10 pas, là. Tu sais, c'est incroyable, souvent, les gens, on va les voir, ils vont avancer, reculer, on dirait qu'ils dansent avec la barre. Mais une fois que t'as vraiment lourd, tu peux pas te permettre ça, tout simplement. Fait que si ta largeur de pied, qu'on va parler plus tard, est assez rapprochée, t'auras pas nécessairement besoin de 3 pas. Donc, juste 2 pas, tu vas être capable de te placer. Les gens qui sont plus larges, généralement, on va aller plus vers du 3 pas, parce que là, les jambes sont tellement larges que c'est difficile de se placer juste en reculant à 2 pas.
C'est difficile de se placer parce qu'on veut aussi garder des petits pas.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que...
Ouais, c'est ça, on veut pas faire des pas de géants, là, quand même.
Donc...
Des petits pas, mais encore une fois, tous les petits pas solides. Fait que quand vous reculez, restez confiant, restez solide au niveau de votre ventre, au niveau de votre dos, puis c'est ça. Reculez avec conviction.
Exact. Puis ça, pour vrai, ça sauve quand même beaucoup d'énergie quand t'es rendu avec un maximum à ta compétition.
Ouais, vraiment. Parce que le but non plus en reculant, c'est pas de tout détailler ce que tu viens de tighter en unrackant la barre.
Souvent, un petit truc, par exemple, si vous avez vraiment de la misère avec ça, vous unrackez votre barre, puis vous êtes tout le temps crush, vous êtes vraiment, genre, vous shakez, vous tremblez beaucoup, 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 vous pouvez essayer d'insérer dans votre entraînement juste unracker des barres qui sont plus lourdes que ce que vous devriez être capable de soulever. Par exemple, mon max au squat, c'est 500 livres. Je vais décrocher 530-550 livres. Même il y en a qui vont pas mal plus haut que ça. Ça va justement vous pratiquer avec des charges pesantes. Je brace, j'unrack 1, 2, max 3 pas, des petits pas, je suis prêt à squatter. Là, vous maintenez la barre. Ouais, là.
Mais tu sais, vous maintenez la barre là, par exemple, ouais, 10 secondes.
Ouais, c'est ça, 5-10 secondes. Puis après ça, vous raquez la barre.
Il y a Jennifer Thompson, dans le fond, qui est dans ma catégorie de poids, malheureusement, non, c'est pas vrai. Pour vrai, je dis malheureusement, mais c'est le fun d'avoir de la compétition dans ces catégories parce que je pense que ça donne un challenge, là. Mais bref, Jennifer Thompson...
Je pense pas qu'elle avait de la compétition avec toi.
Non, pas encore. Jennifer Thompson est aux États-Unis, là, par exemple. Vraiment un incroyable bench. Là, je sais qu'on parle pas de bench, mais tu sais, elle bench au-dessus de 3 plates, ce qui est plus que 315 livres. Vous direz que c'est pas loin de ça, là. Mais ouais, bref, elle bat une tonne de gars là, là-dessus. Puis elle a fait souvent ça au bench.
Au
là,
bench. Mettons son max au bench est 315 à peu près, 315-320. Dans ses entraînements, je l'ai déjà vu faire, tu sais, décrocher des barres à 5 plates, fait que 500 livres, vous êtes pas obligé d'aller aussi haut que ça, là.
Non, parce que ça prend quand même un certain niveau d'expérience.
Exact. Mais tu sais,
ça peut tourner très dangereux si vous mettez trop que, par rapport à ce que vous êtes capable.
C'est ça. Mais tu sais, vous pouvez facilement aller à 105-110% de votre maximum.
Oh, ouais, ça, ouais.
Facile. Est-ce qu'on a fini avec ça, le
walkout? Ouais, ça, c'est bon. Dans le fond, ça va tout naturellement, là. Maintenant qu'on a fait notre walkout, faut parler de la position des pieds. Donc ça, il y a beaucoup, j'allais dire des débats, là. C'est pas des débats, mais ça, il y a énormément de variantes entre les différents positionnements de vos des pieds. Donc souvent, j'ai des gens qui vont se sentir mal, si on veut, de se placer large. T'sais, ils vont vouloir rapprocher leurs pieds.
J'ai pas ce problème-là, moi.
Non, mais comme, tu sais, ça m'arrive des fois qui essaye de squatter, par exemple, plus rapproché, puis il dit « Ah, j'ai tout le temps mal quand je fais ça, je suis pas capable », puis il continue à essayer. Mais à un moment donné, il faut comprendre que tout le monde a son anatomie. Au niveau de la hanche, c'est incroyable les différences d'anatomie, là. Au niveau, tu sais, aussi pas juste au niveau de l'articulation, mais aussi au niveau de comment est faite votre fémur. Donc ça va énormément dicter votre façon de vous placer au squat. Moi, personnellement, me placer large au squat, j'ai aucune force quand j'arrive dans le trou. Mes hanches sont incapables de produire de la force, puis bien souvent, je me fais mal aux hanches. Au contraire, lui, se positionner large au squat, ça a l'air naturel. Moi, ça n'a pas l'air naturel pour une scène. Mon stand, ce qu'on dit en anglais, donc ma largeur de pied, est assez collée, là.
Puis à l'inverse, quand j'essaye d'être collé, puis j'essaye d'avoir la profondeur légale pour une compétition, mon bas de dos va rondir dans le bas du mouvement, ce qu'on appelle un butt wing, puis souvent ça me crée de la douleur au bas de dos. Et l'eau, ça fait exactement l'inverse, ben pas que ça fait l'inverse, mais ça y fait pas ça justement.
Ouais, c'est
ça. Mais elle, quand elle est large comme moi, ben elle a mal. Donc, tu sais, dans le fond, ton bassin, ton fémur, puis ton bassin, c'est vraiment... Ton fémur, c'est comme un gros...
Même si tu fais des signes, ils te verront pas.
Ouais, non. À part ceux qui sont sur YouTube. C'est vraiment un os long qui rentre vraiment dans une cavité. Puis certaines personnes, ils ont leur cavité un petit peu plus profonde, un petit peu plus grosse, un petit peu plus... plein de formes différentes. Puis justement, il y a pas une façon de placer tes pieds qui est idéale pour...
Tout le monde.
Pour tout le monde. Chaque personne va être différente. Certains vont avoir leur pied un petit peu plus incliné vers l'extérieur, d'autres un petit peu plus droit, puis d'autres pieds larges, pieds rapprochés. Il y a pas de façon générale, on peut dire que plus tes pieds sont larges, plus ils vont être pointés vers l'extérieur.
Ouais, mais dans le fond là, premièrement, commencez par vous placer à peu près largeur épaule, un petit peu plus large que largeur épaule, puis faites un squat. T'sais, c'est tout le temps important de faire du test retest. Donc, placez-vous à une largeur de base, là, si on veut, là, puis faites un squat. Après ça, jouez avec votre largeur. Rapprochez-vous. Faites un squat. Qu'est-ce que vous sentez comme différence? Est-ce que vous sentez mieux? Est-ce que vous sentez pire? Puis tu sais, ça, vous pouvez faire ça avec juste le poids du corps, mais aussi avec une barre. Parce que des fois, il y a des petites variantes aussi par rapport à ça. Faut essayer aussi d'élargir votre largeur. Donc, jouez avec ça, puis testez voir laquelle vous fait sentir le mieux, puis retenez que c'est pas parce que ton ami squatte de cette façon-là, puis qu'il y a un énorme squat, que c'est la bonne façon de se placer. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre.
Puis c'est pas parce que t'as les pieds larges, puis qu'apparemment t'as moins d'amplitude de mouvement, que tu triches en powerlifting, parce que... Mais il y en a qui disent ça, tu sais, ah, là, t'as les pieds larges, t'as moins d'amplitude de mouvement. Ça a juste pas rapport. Puis même,
Tu sais, si ça peut t'aider à prévenir une blessure, je vois en aucun lien pourquoi le monde irait te bâcher, par exemple, que tu triches. Non. T'sais, si c'est ta façon naturelle pour toi de faire un squat, puis que t'atteins la profondeur légale, requise, ben, genre, tu peux pas tricher. T'as la profondeur.
Non, c'est ça. Puis juste brièvement, là, tu sais, juste pour vous montrer à quel point ça peut changer vraiment un squat. Tu t'en souviens-tu, maintenant, on avait une cliente à un cours de groupe, puis elle avait commencé, Anne-Sophie, là, juste pour qu'elle te mette en contexte.
Non, je savais, là.
OK. Elle avait commencé à squatter dans notre cours de groupe, on faisait des squats. Là, je regardais, j'étais là, oh boy, ça va être compliqué de vraiment, tu sais, d'y faire un squat comme il faut, parce que elle mettait ses pieds rapprochés par en avant, puis j'étais là, c'est sûr qu'elle sera pas capable de faire un squat qui va avoir de l'allure. On a vraiment élargi ses pieds pointés vers l'extérieur, puis on aurait dit qu'elle avait squatté toute sa vie. Fait que des fois, des petits, c'était quand même un changement majeur.
Ça avait vraiment des longues jambes, là. Ça arrive souvent que les personnes qui ont des longues jambes vont être plus à l'aise, plus larges. Fait que ça, vous pouvez tester ça. Tu sais, ça, souvent, on le voyait, là, par après au cours de groupe, là. Tu sais, ceux qui ont des longues jambes, souvent, ont tendance naturellement à se placer plus larges. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement coulé dans le béton, là. Fait que testez ça. Puis juste, là, comme le répéter, généralement, plus vous êtes large, plus vous allez avoir à tournez vos pieds vers l'extérieur, mais encore une fois, testez, voir ce que vous sentez de mieux, parce que dans le fond, idéalement, là, je sais pas si on va en parler tantôt, je penserais pas, mais tu sais, il faut pas que vos genoux rentrent vers l'intérieur quand vous faites un squat.
On n'en parle pas tantôt,
okay, je veux juste le dire un petit peu vite. Tu sais, si vous sentez qu'à chaque fois que vous squattez, vos genoux rentrent vers l'intérieur, il faut essayer de rapprocher votre stance, il faut essayer de jouer avec l'orientation de vos pieds, mais essayez des choses, OK? Parce que souvent, on entend, c'est faiblesse des petits moyens fessiers. Mais tu sais, c'est pas nécessairement ça. Des fois, c'est juste votre façon de vous positionner. Fait que, idéalement, optimalement, là, on veut garder le genou aligné avec le pied. C'est sûr que si tu fais un RM, ça se peut qu'il rentre un peu vers l'intérieur, puis ça se peut que ça te crée jamais aucunement dans ta vie de la douleur. Mais, tu sais, tout mouvement problématique.
Parce
là,
que c'est ça, rentrer les genoux vers l'intérieur, c'est une faute, puis, c'est pas une faute, mais...
Ça crée beaucoup de tension, là, au niveau du genou, puis au niveau des structures. Du
ligament croisé antérieur, souvent, ça fait des blessures à long terme.
Ouais.
Dernière chose sur la largeur des pieds, les études montrent que il y a une légère différence, plus t'es large, plus tes fessiers seraient activés.
Tes adducteurs.
Ouais. Puis plus t'es rapproché, moins que les fessiers puis les adducteurs seraient activés.
Ouais.
Si vous savez que vos fessiers sont super, super forts, ben vous pouvez peut-être essayer de jouer là-dessus.
Mais tu comme toi, là, mettons, on le regarde, là. Brian, il est super fort des fessiers, il se met large, il a la mobilité pour ça, puis il squatte de même, ça a l'air naturel. Tu sais, je veux dire, je verrais même pas pourquoi quelqu'un te dirait, mettons, de squatter plus rapproché, là. Une optique de powerlifting, évidemment.
Oui, plus t'es large, plus les fessiers seraient activés normalement. Fait que si vous avez pas de problème à squatter, tu sais, il y en a qui sont capables de prendre toutes les positions possibles. Peut-être, puis vous savez que vos fessiers sont plus forts, sont vraiment forts pour vous, ben vous pouvez peut-être essayer d'élargir votre position, voir qu'est-ce que ça
Mais tu sais, la différence est pas si énorme que ça, là, parce que là, je te vois dire ça, puis là, j'imagine, genre, toutes les fit girls arriver à faire leur super wide sumo squat, là, genre, là.
Mais non, la différence est pas si grosse que ça, là. C'est quand même une différence assez minime.
Ouais.
Puis finalement, c'est le dernier point qu'on sort, puis après ça, on conclut le podcast, là. Tes pieds sont placés, t'es confortable, ton haut de dos, il est solide. Il te reste juste à faire une dernière chose, c'est de prendre une grande respiration encore, comme tantôt. Remplir le ventre d'air, squeeze les abdos comme si quelqu'un y allait te puncher dans le ventre. Puis là, t'es prêt à descendre, ce qui va d'être dans un prochain podcast.
Exactement.
Donc, Élodie, est-ce qu'on a des choses spéciales à... peut-être on va juste résumer. Quand t'arrives sur, t'sais, pour faire un squat, concentré, chaque répétition compte, même si c'est juste la barre puis ton échauffement.
Tout doit être fait de façon solide, ok? Mentalement,
exact.
Physiquement.
Exact. Fait qu'on a, t'sais, c'est juste question de concentration. Deuxième chose, positionnement des mains. Généralement, ce qu'on recherche surtout, c'est d'avoir le haut du dos contracté, solide. Puis ça, ça va... Fait que dans le fond, plus t'es proche, généralement, ça, tu vas être capable de...
Plus facile. Plus facile de solidifier ton dos.
Exact. Une fois que les mains sont placées, faut que tu choisisses, tu vas être rendu à placer la barre sur ton dos. Low bar, high bar. Low bar, on va être souvent plus fort que dans la position high bar.
Encore une fois, au niveau de la mobilité, il faut faire attention parce que certaines personnes qui sont tout simplement pas capables de squatter low bar à cause de leur mobilité. Fait que si vous avez vraiment des douleurs, vous êtes pas obligé nécessairement de squatter high bar à vie, mais vous pouvez travailler sur votre mobilité aussi.
Exact. Une fois que la barre est placée sur le dos, grande respiration, remplis le ventre d'air, contracte les abdos comme si t'allais te faire puncher dans le ventre.
Puis on n'oublie pas de bloquer aussi la respiration.
Bloquer la respiration.
Ben, dans le fond, ce que tu veux pas, c'est de tout ressouffler ton air pendant que tu décroches ta barre, parce que là, tu vas perdre la tension là, au niveau de la colonne.
Exact. Après ça, on recule, on décroche la barre. Un, deux, petits pas, trois maximum. On garde vraiment toute tête, fait qu'on veut perdre le moins d'énergie possible. Après ça, ben ça se fait comme automatiquement, mais les pieds larges rapprochés, il y a pas de règle d'or, tout le monde est différent, fait que tester des choses, c'est le mot clé. Puis finalement, on prend une autre respiration, remplit le ventre, contracte les abdos comme si vous allez vous faire donner un coup de poing dans le ventre, puis on descend. Prochain podcast. Donc,
ouais.
Prochain podcast dans 2 semaines. Encore une fois, podcast très long, 36 minutes. Tant mieux si vous aimez ça, mais nous, on essaye quand même de faire un petit peu plus court que ça. En attendant, des annonces. Moi, j'ai pas d'annonce à faire.
J'ai pas d'annonce à faire. On a une semaine chargée, fait que c'est ça, mais il y a du nouveau contenu qui s'en vient, là.
Contenu Instagram va être complètement différent prochainement.
Ça va être malade, puis il y a beaucoup de tout ça qui vient de Bren, honnêtement, là. Le gros de ça, là, vient essentiellement de Bren, puis j'ai comme aucun, je sais pas comment dire ça.
Aucun mérite.
Aucun mérite là-dedans.
T'as absolument aucun mérite.
Ouais, mais dans le fond, l'objectif, là, moi, ce serait peut-être plus que je fasse les textes, puis lui... les images, mais vous garde le punch pour les images, c'est malade.
Ben, tu sais, juste dire que c'est moi qui ai dessiné.
Dans le fond, Brian a commencé, dans le fond, depuis qu'il est tout jeune, il est vraiment, vraiment bon en dessin, puis il en fait jamais, mais là, je pense que c'est le fun de ressortir ça pour pouvoir l'exploiter avec notre compagnie Bimor. Fait que dans le fond, on va vous sortir des images sous forme de cartoon, si on veut, donc avec toutes des points techniques, des points explicatifs, sur les mouvements qu'on préfère, comme le squat, là, évidemment. Puis, il va tout le temps avoir un texte par rapport à ça pour vous expliquer le contenu, mais sérieusement, le visuel est malade. J'ai vraiment hâte de sortir ça. Puis, c'est ça, tout le mérite va à Bren pour l'image. Je n'ai aucun mérite sur l'image en tant que telle. C'est vraiment lui qui dessine à 100% le dessin, donc c'est vraiment, vraiment cool.
Donc, merci et à dans 2 semaines.
Bimor performant.